RCF.
On poursuit cette semaine avec le père Édouard d'Ivry, le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église, c'est le nom de votre ouvrage publié aux éditions Artege. Père Édouard d'Ivry, vous avez vécu dans plusieurs pays à l'étranger, c'est peut-être aussi un regard qui vous permet d'avoir une ouverture sur les différents sujets. On évoquait dans la dernière émission dans quelle mesure s'établit la hiérarchie dans l'Église, est-ce qu'il y en a une et comment elle se construit? Est-ce qu'on pense que Dieu parle mieux, plus juste et plus vrai au pape qu'à la base? C'est parfois un peu l'idée qu'on a finalement. Qu'est-ce qui est vrai?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, je dirais que c'est vrai que Dieu assiste chacun là où il est, et même notre Seigneur a été assisté par le Saint-Esprit selon les âges de sa vie. Il n'a pas reçu plus que ce dont il avait besoin dans sa mission selon les âges de sa vie. Quand il avait 12 ans au temple, il posait des questions et lui-même faisait des réponses que remarquaient les prêtres ou les scribes intelligentes, comme dit l'Écriture. Il recevait au fur et à mesure de ce dont il avait besoin dans son humanité. Eh bien, chacun a notre place dans l'Église, que l'on soit prêtre, évêque, pape, diacre, qu'importe, religieux, religieuse, laïque, eh bien, on reçoit ce dont nous avons besoin pour exercer pleinement notre mission. Et tout l'ordre hiérarchique que vous venez de citer est au service de la sainteté. C'est ça la grosse différence, si vous voulez, avec une institution civile qui n'a comme but finalement que de se générer elle-même.
De servir le peuple.
Alors normalement, de servir le peuple officiellement, mais très souvent, on voit bien, regardez, la santé, on essaie toujours de tenir que l'institution tienne. Et à la limite, on se dit, tiens, c'est curieux, on est en pleine épidémie, on supprime quand même 500 lits, vous voyez, c'est quand même assez frappant. Et donc, on sent bien que c'est la survie de l'institution qui compte. Et ça peut être un péché, si vous voulez, dans l'Église, qu'on soit tenté d'imiter finalement la société civile. Et on a besoin toujours de se rappeler de la véritable finalité, c'est-à-dire la hiérarchie est entièrement au service de la sainteté de tous. Et c'est la parole de Jésus dans Saint Matthieu ou dans Saint Marc. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude.
Alors vous parlez de la survie de l'institution, vous parlez de l'institution politique. On a parfois aujourd'hui le sentiment que l'Église, elle aussi, tente de sauvegarder ce qu'elle est. C'est en tout cas ce qu'on peut lire. Est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui de l'Église telle qu'elle est constituée? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur et que de toute façon, l'Église existera avec ceux qui la constituent et qu'il n'y a pas de menace précisément à voir aujourd'hui?
L'Église peut disparaître sur certains continents. Il y a eu des persécutions si farouches que parfois elle a disparu sur certaines régions, mais elle a la certitude de la pérennité jusqu'au retour du Christ, puisque c'est le Christ qui l'a fait vivre. C'est le Saint-Esprit qui l'anime. Et donc, un jour, les révolutionnaires envoyés par la Convention arrivent à Rome et un général dit au pape Pie VI, nous sommes venus pour détruire l'Église. Et le pape se met à sourire en disant, nous avons déjà essayé de le faire nous-mêmes, nous n'y sommes pas arrivés.
Alors vous évoquez quand même dans votre ouvrage, et vous n'êtes pas tendre avec les médias, une sorte de complot pour la chute de l'Église. C'est pas dit explicitement comme ça, mais c'est ce que j'ai compris à travers certaines phrases.
Alors je ne suis pas du tout complotiste, rassurez-vous.
Les médias entretiennent une crise morale, dites-vous.
C'est sûr que ça se vend
vous
mieux.
Vous écrivez quand même qu'il y a la condamnation de certaines erreurs de religieux qui seraient le prétexte pour, je cite, accélérer une opération chirurgicale antichrétienne.
Alors ça c'est vrai, ce n'est pas moi qui le dis, c'est
René Raymond.
René Raymond qui était un grand sociologue de la vie politique française qui l'a écrit et donc qui voyait bien monter dans le laïcisme, dans les lois de la laïcité, une volonté de recadrer l'Église, une volonté un peu jalouse finalement par rapport à l'expansion de l'Église malgré la Révolution, malgré les républiques, malgré tout ce qu'on a fait un peu pour la mettre en deuxième ou troisième place, eh bien de voir que finalement, elle renaît facilement de ses cendres et puis qu'elle a une influence. Et donc, il y a toujours une volonté de placer ses propres billes au détriment de l'autre. C'est un jeu malheureusement très humain, trop humain. Humain, trop humain, disait Nietzsche.
L'Église, est-ce que c'est lié à sa survie? Peut-être, mais cherche parfois à faire des concessions pour être mieux admise du monde. Pourrait chercher à faire des concessions pour être mieux admise du monde.
Ça, c'est une tentation, si vous voulez. Être dans le sens du poil, si vous voulez, c'est une tentation qui a toujours existé dans l'Église. Et je vais vous donner un exemple assez frappant. C'était à l'époque du IVe siècle. Et il y avait toute une part de la cour sous les successeurs de Constantin qui avait vraiment, si vous voulez, libéré le christianisme de l'époque de la persécution et qui acceptait encore d'autres courants. Et parmi ces courants, il y avait un courant chrétien, mais défiguré, l'arianisme. Et autour de l'empereur, il y avait essentiellement une cour pro-arienne dans cette tendance, si vous voulez, qui se différenciait profondément de la foi catholique. Et les évêques avaient un peu tendance, si vous voulez, à suivre la cour, à être comme la cour. Eusèbe de Césarée, Eusèbe de Nicomédie, grand évêque, grand historien, mais en même temps des hommes qui allaient dans le sens du poil, du pouvoir, pour être bien vus. Et un jour, un préfet, voyant que Saint Basile le Grand en Cappadoce était un peu résistant, si vous voulez, par rapport aux directives de l'empereur, vient le voir. Il s'appelait Rusticus, si ma mémoire est bonne, et il interroge Basile, et Basile reste ferme sur ses positions. Non, non, c'est faux, je ne suis pas d'accord, je ne bougerai pas, etc. Et à la fin, Rusticus, qui est quand même préfet, un légat vraiment officiel de l'empereur, lui dit « Mais jamais un évêque ne m'a parlé sur ce ton ». Et vous savez ce que Basile lui a répondu? Mais c'est que tu n'as jamais rencontré un évêque.
Alors aujourd'hui, qui faudrait-il rencontrer? Est-ce qu'on sort vraiment du politiquement correct aujourd'hui? Est-ce que c'est si facile? Parce que cela veut dire aussi être à contre-courant, bien souvent.
Alors oui, Saint Paul demande de parler à temps et à contre-temps. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a le vent en poupe, comme on dit, hein, quand il y a des grands drames humanitaires et que tout le monde se penche vers ces drames humanitaires. Si vous dites une parole qui va dans ce sens-là, pas de problème. Mais si jamais vous touchez un problème de structure de péché qui correspond à tout le monde et que vous mettez le doigt dessus, ça fait mal. Et du coup, il peut y avoir une forte résistance. Je viens d'une ville où j'habite, à Toulouse, où le cardinal Saliège a eu ce courage par rapport à la structure de péché qu'était l'anti-judaïsme chrétien, l'antisémitisme de la société. Et tout à coup, il a écrit, après la rafle du Valdiv en 1942, cette lettre magnifique qui est restée dans la mémoire de tous les Juifs, cette lettre qui a permis de retourner la pensée de la France dans ce moment dramatique où le gouvernement du maréchal Pétain enfermait les Juifs pour les emmener en camp de concentration. Et cette lettre magnifique, dans laquelle il disait des choses très simples, un Juif est un homme, une Juive est une femme, on n'a pas le droit de faire avec eux n'importe quoi. Et cette lettre est restée si fortement dans le cœur des Toulousains qu'il y a une grande plaque dans la synagogue de Toulouse, la plus vieille synagogue de Toulouse, qui est tout à l'honneur du cardinal Saliège. C'est l'endroit où il est le plus honoré de tout Toulouse. C'est amusant, même dans la cathédrale de Toulouse, vous ne verrez pas une plaque aussi belle en l'honneur du cardinal Saliège.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, justement, cette attitude de regarder ce qui est factuel, de rester sur le fait, un juif est un homme, c'est peut-être parfois ce qui manque, j'allais dire tout simplement, mais est-ce que c'est pas ça l'exigence du chrétien aujourd'hui, d'être au plus près du fait, comme devrait l'être le journaliste?
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de convergent, parce que quand les papes ont défini la vocation du journaliste, c'est à chaque fois d'être des témoins de la vérité, de ne pas l'occulter, de tout dire. On le dit aussi de l'historien. Léon XIII dit exactement la même chose de l'historien. L'historien doit ne rien cacher de la vérité. Il doit dire toute la vérité. et s'y attacher, même si, d'une certaine manière, ça fait mal à l'idéologie ou à la bien-pensance de l'époque.
L'Église peut faire scandale, doit faire scandale, alors, autrement évidemment que par les abus, mais l'Église doit faire scandale par la vérité finalement.
Notre Seigneur n'a pas hésité à le faire, voyez, dans le temple de Jérusalem ou ailleurs, auprès des scribes et des pharisiens. Il s'est à chaque fois positionné comme à contre-courant souvent. Et saint Paul le manifeste aussi dans ses épîtres lorsqu'il dit « malheur à moi si je n'évangélise », c'est-à-dire si d'une certaine manière je ne m'oppose pas à un certain nombre de structures de péché. Alors il le fait avec diplomatie aussi, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement mettre de l'huile sur le feu, si vous voulez. Regardez par exemple à Éphèse, quand il est en situation d'avoir une opposition, une polémique terrible contre les orfèvres d'Éphèse qui comprennent que si on prêche un Dieu unique qui n'est pas dans les statues que l'on adore d'une manière polythéiste, eh bien, ils vont perdre leur métier. Et ce n'était pas faux, ils avaient fait une bonne analyse, ils avaient bien compris que la prédication de Paul était tout à fait opposée au polythéisme, et donc un jour ou l'autre, la boutique allait s'effondrer. Eh bien, Paul ne cherche pas plus loin, et on l'exfiltre, et il part ailleurs prêcher, si vous voulez. Et ça fait partie des recommandations du Seigneur. Bah, si on vous écoute, très bien, bénissez le lieu où on vous écoute, sinon bah, secouez les sandales de vos pieds et partez ailleurs.
Voilà. Voilà, secouons les sandales de nos pieds. Je pense que c'est un appel qui peut concerner tout le monde. Merci Père Édouard d'Ivry, vous êtes l'auteur de Le Bienfait des controverses doctrinales publié aux éditions Artege. Merci à vous.
Merci.